J'observe l'agresseur. Pas le mien. Pas celui des victimes qui sont assises à cette table ronde. C'est l'agresseur de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas fait la démarche d'être présent ou qui n'en a pas ressenti le besoin. Ou n'en a pas eu le courage. C'est souvent le courage qui manque. Pour beaucoup, être une victime, c'est l'être à vie. Je regarde ses mains. Tente d'y déceler la violence qui s'en est un jour dégagée au point de faire couler le sang, volontairement. La rage qui a fait gonfler les veines, le plaisir qui a rougi la peau. Violence volontaire sans intention de donner la mort. Ce sont les mots que le tribunal a mis sur un traumatisme crânien, trois côtes cassées, une hémorragie interne et de multiples contusions. Je ne sais pas ce qu'en pense la victime, mais je suis certaine que la mort, elle, elle l'a vue arriver. Peu importe que son agresseur ait voulu ou non la lui donner. Cet homme purge actuellement une lourde peine et il fait partie de cette catégorie d'agresseurs qui ont des remords, qui regrettent, qui repassent la même scène de violence dans leur tête presque autant que la victime elle-même. Combien de temps après l'agression avez-vous regretté votre geste ? Demande l'une des victimes. C'est une jeune femme qui a subi un braquage à main armée, puis un stress post-traumatique qu'elle ne parvient pas à guérir. Sa psychothérapeute lui a conseillé de participer aux séances de justice restaurative que j'organise deux fois par semaine avec mon collègue Omar. Le tribunal apparaît alors comme un sanctuaire de discussion, bien loin des images de procès tumultueux et pénibles que les victimes se figurent généralement. Ces dernières sont volontaires, avec le besoin de sortir de ce cercle vicieux qu'est la sensation d'être vulnérable. Elles veulent être actives, reprendre le contrôle de leur vie. Les agresseurs, quant à eux, ne sont pas très nombreux. Omar et moi les auditionnons en prison, au milieu de la noirceur et de la douleur, à la suite d'une enquête pour laquelle ils se sont portés volontaires. Les agresseurs qui regrettent sont plus nombreux que ceux qui assistent effectivement aux séances. La plupart ont peur de se retrouver face aux victimes. Ironique, n'est-ce pas ?
Quand je suis rentrée chez moi après l'agression.
Répond l'homme, qui donne l'impression d'être mangé par sa combinaison orange. Si peu de temps après ? Insiste la victime. L'homme acquiesce. Il semble vouloir disparaître, avalé par sa chaise en plastique. Il ne regarde personne dans les yeux. Son genou tressaute, ses mains menottées sont coincées entre ses cuisses. Le regard des deux gardiens pèse sur ses épaules. J'ai la sensation qu'il regrette presque l'absence d'intimité de sa cellule, là, tout de suite.
Est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont vous voudriez parler ?
Demande Omar, assis à côté de moi.
Nous n'avons pas abordé la question du procès. Est-ce que vous souhaitez que nous en discutions ? Comme vous le savez, ma collègue Olive et moi sommes juristes, diplômés en droit pénal. Nous sommes là pour vous aider, mais aussi pour apprendre. Chacun de vous a beaucoup à nous apprendre.
Je manque de glisser à Omar qu'il m'ôte les mots de la bouche. Apprendre au contact des gens, agresseurs et victimes, c'est ce qui me passionne. Le droit pénal nécessite d'être pratiqué, car ce n'est qu'un code basé sur la vie, la pire, celle qui tourne à la tragédie, celle qui demande un procès, parfois même une tombe. La justice, c'est toute ma vie. Être face aux agresseurs, sans être contre eux, mais à leur côté, c'est ma thérapie. Parce que je n'ai pas fait face au mien, et que je ne le peux désormais plus. Je réprime un frisson, et me concentre sur les mots qu'échangent Omar et la jeune fille victime du braquage. Vous savez, monsieur, mon agresseur est devenu comme une célébrité quand les médias en ont parlé. Moi, j'ai perdu mon identité. Je n'étais plus Emma. J'étais devenue la victime du braquage. Et j'ai besoin qu'on me rende mon identité. Je dois la retrouver. Au lieu de disparaître, le frisson se répand soudain à toute vitesse sur ma peau. Il court, grignote. Les paroles de cette femme ont un écho terrible au creux de mon ventre. Et votre agresseur est devenu un monstre aux yeux de tout le pays, renchéris-je. Les médias donnent des noms, mettre des mots sur ce qui vous est arrivé avant même que vous en ayez vous-même conscience.
« C'est ça !»
soupire-t-elle, le regard braqué sur moi, surprise, comme si j'avais lu la vérité dans ses yeux. Et c'est un peu ce qui vient de se passer. Vous devez cesser d'écouter cet éternel murmure dans votre tête qui vous dit que vous portez toujours les blessures fantômes de votre agression. Plus personne ne braquera d'armes sur vous, Emma. Les bruits que vous entendez et qui déclenchent chez vous des crises de panique ne sont que des bruits. Vous les avez entendus toute votre vie. Vous les entendrez encore. Mais ne les laissez pas être plus que des bruits. Comme vous ne laissez pas les médias faire de vous la victime. Vous êtes Emma. La jeune femme continue de me fixer et je la vois déglutir difficilement. Omar reprend la main et pose une autre question, comme toujours quand il est temps de changer de sujet pour éviter aux victimes de se sentir mal. Parfois, il est bon de pleurer, mais ça fait aussi un bien fou de se rendre compte que, enfin, on est capable de ravaler ses larmes, qu'elles ne sont plus aussi puissantes qu'avant, et que c'est nous qui avons repris le dessus sur la douleur. Quand la séance se termine, j'accompagne Omar fumer une cigarette. Je le suis dans le dédale des couloirs marbrés du King County District Court de Seattle, le tribunal dans lequel je travaille depuis la fin de mes études, il y a 6 mois. Nous sortons dans l'air piquant et humide de cette fin octobre, face au mur de granit sombre érigé devant le bâtiment et sur lequel est gravé en lettres d'or le nom du tribunal. Des gens attendent le bus, d'autres leur avocat. L'ambiance n'est pas toujours beau fixe sur ce trottoir. Omar allume une cigarette, avale une goulée de fumée, mais ne m'en propose pas une. Il a enfin retenu la leçon. Nous nous connaissons depuis la première année de droit et je ne compte plus le nombre de fois où il m'a proposé ce poison avec un grand sourire. Quel idiot.
Tu as parlé avec tes tripes tout à l'heure.
Lance-t-il en posant sur moi son regard chaud, entouré de cils sombres et fournis. Omar est la gentillesse incarnée, mais l'expression « mettre les pieds dans le plat » a été inventée pour lui.
C'est fou que j'arrive à parler d'autre chose que des lois, non ?
Raillais-je.
J'ai eu du mal à te reconnaître,
rétorque-t-il, l'air insolent.
J'ai failli demander au gardien si tu avais fumé un truc avant d'entrer.
Un sourire, et il laisserait même passer des ciseaux affûtés par le portique de sécurité.
Quand même pas. Respecte-les un peu.
Il tire de nouveau sur son bâton tout droit sorti des enfers, puis ajoute
« Cette victime t'a fait penser à toi ?»«
Un peu. » »«
Un peu comment ?»« Un peu comme « je me suis vue en elle ?»« Un peu comme « j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse ?»«
Un peu comme « ça m'a fait réfléchir. » »«
Phénomène relativement rare. »
plaisante-t-il. « Si tu savais, il va falloir que je me couche tôt ce soir. »
Toute cette énergie dépensée, ton cerveau va avoir besoin d'un congé.
Malheureusement, vivre sans argent est un peu compliqué. Prendre un congé est au-dessus de mes moyens.
Quelle fille vénale !
Ricane Omar.
C'est tout moi, ça.
Nous échangeons un regard digne d'un film d'ado des années 2000, mais je sens qu'il n'est pas prêt de lâcher le morceau. Alors je prends les devants. Quand la victime a parlé des médias, j'ai réfléchi à l'impact que ça a eu dans sa vie. Son histoire, son drame ont été jetés sur la place publique et elle n'a eu d'autre choix que de faire avec. Elle aurait sûrement voulu garder tout ça pour elle, qu'on ne la prenne pas en pitié, qu'on ne la contacte pas pour lui en parler encore et encore.
Ce sont les médias, Oli.
Omar termine sa cigarette, jette le mégot éteint dans la poubelle la plus proche, puis frotte le dessus de sa tête quasiment rasée du plat de sa main. Il fait toujours ça quand il cherche ses mots. Mais pourquoi décider de médiatiser telle ou telle affaire ? Insistais-je. Ce ne sont pas toujours les histoires les plus sordides qui se retrouvent à la une.